par sa grâce. Et voilà, nous allons tous lever nos voix pour le glorifier. Avant de commencer, nous prions. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton amour. Nous croyons en ton amour, à ta grâce, ta bonté, ta bienveillance. Toi qui nous as protégés, oh mon Dieu, par ton amour, tu nous as accordé le souffle de vie. Et nous vivons par ta grâce et par ton amour. Oh, laisse que toute gloire soit pour toi pour ces moments favorables que tu viens de nous accorder. Nous n'avons fourni aucun effort, mais tu nous as accordé ta vie. Alléluia. Oh, nous croyons en ta bonté. Nous croyons en ta faveur et ta fidélité. Nous te confions ces moments, Père éternel. Enseigne-nous. Instruis-nous. Purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, les péchés de mon frère et de ma sœur. Et que ton sang puisse nous justifier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens conduire, oh mon Dieu, mon roi, ces moments. Viens nous conduire. Parle-nous. Révèle-nous. Enseigne-nous. Instruis-nous. Édique-nous. Alléluia. Oh, merci, merci, merci. Oh, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je vais demander à chacun de lever sa voix pour remercier le Seigneur et recommander cet enseignement entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle, nous prions.
Alléluia. Père, nous voulons te bénir, te dire merci parce qu'encore tu étais avec nous durant cette session. Tu nous as gardé protégé, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous remettons ces moments, Seigneur, entre tes mains, afin que Seigneur soit conduit, dirigé par toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, viens nous conduire, viens nous diriger. Le nom puissant de Jésus.
Seigneur, mon Dieu, dirige-nous.
Le nom puissant de Jésus. Chassé au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas nous diriger. Merci parce que tu vas nous conduire. Tu vas conduire toutes choses. C'est un Seigneur qui soit la gloire. Que les âmes soient sauvées, Seigneur. Que les marques soient sauvées. C'est la Seigneur gloire. Et le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te confions ces moments. Nous ne voulons pas parler par habitude, mais que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en ton amour, ô Dieu de gloire. Nous croyons en ta bonté et ta faveur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous acclamons le Seigneur, il est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Soyez Amen. Bénis dans le nom de Jésus.
Amen.
Et nous croyons que notre Dieu est avec nous. Voilà, nous allons poursuivre notre formation, notre enseignement que nous avons commencé la fois passée. Alors, qui peut nous rappeler ce que nous avons déjà vu? Qui peut nous rappeler ce que nous avons déjà vu, ce que nous avions vu la fois passée?
On a vu les...
Bon, la première... C'était le saint effort chronologique de la Bible.
Oui. Je vous entends loin, ma soeur. Oui, allez-y.
Voilà, on a vu l'équipe de l'Ancien Testament.
Mmh.
Et dans l'Ancien Testament, il y a quatre groupes quatre groupe qui fait avec des livres. Bon, le premier groupe, il y a 5 livres. On appelle ça les Pentateuques ou la loi de Moïse.
Oui.
Le deuxième groupe, 12 livres. On appelle les livres historiques.
Oui.
Le troisième groupe, c'est les livres poétiques. Il y a 5 livres. Et le quatrième groupe, c'est les 17 livres. Et c'est les livres prophétiques.
Ok, donc ce sont là les 4 groupes de livres de l'Ancien Testament.
Voilà.
Donc il n'y avait que 4 groupes.
Oui.
Vous êtes sûr qu'il n'y a que 4 groupes de livres de l'Ancien Testament?
Oui, il y a 4 groupes.
Il n'y a pas 5?
Il y en a 4.
Seulement 4.
4.
Non, là, il y a 4. Hein? Alors, il y en a 4 pour l'Ancien Testament. On a bien étudié là.
Oui, alors dites-moi, quels sont ces 4 groupes?
Le premier groupe, c'est les Pentateuques. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
Oui.
Après, le deuxième groupe, c'est les livres historiques. C'est là où on trouve les histoires de la Bible. Avec l'histoire de Ruth, l'histoire de...
Deuxième groupe, il y a Josué, Juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 3 Chroniques, Néhémie, Esther. Allô?
Oui, allez-y. Oui.
Alléluia.
Oui. Donc, le deuxième groupe, dans le deuxième groupe, il y a, c'est les livres historiques. On a 12.
Ça, c'est le quatrième groupe.
Deuxième groupe.
Deuxième groupe, c'est les livres historiques.
Historiques.
Il y en a combien?
Il y en a 12 livres. Il y a Josué, Juge.
Oui.
1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois,
1
chronique,
Esdras,
Néhémie, Esther.
Donc il y en a 12.
Il y en a 12.
Oui. Alors je vais demander à ma sœur qui est juste à côté de moi de nous dire de nous parler un peu du troisième groupe. C'était quoi?
Le troisième groupe, c'est les livres poétiques. Donc les livres poétiques contiennent le livre de Job, des psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. C'est ça. Il y a 5 livres. Dans le troisième groupe, il y a 5 livres. Donc le livre de Job, des psaumes, proverbes, Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques.
Donc ça, c'est le troisième groupe de livres de l'Ancien Testament. Il y en a combien?
Il y en a 5.
Et ce sont quel type de livres?
C'est des livres poétiques.
Livres poétiques. Alors, le quatrième groupe de livres, c'est quoi?
Le quatrième groupe, c'est le groupe de livres prophétiques.
Il y en a combien au total?
Il y en a 17.
17 livres prophétiques. Lesquels?
C'est Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abidias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie.
Ok, ça fait combien en total?
C'est 17 livres.
17 livres prophétiques. Donc ça, c'est le quatrième groupe des livres de l'Ancien Testament. Ok, alors, oui.
Je voulais aussi ajouter quelque chose. La première époque, c'était la préparation de la venue de Jésus-Christ ou l'Ancien Testament. Et c'était là où donc, il y avait que Dieu préparait, donc Dieu a cherché comment arracher, comment sauver l'homme dans le péché. Je ne sais pas si ma sœur peut ajouter encore.
Oui, donc ça c'est la première époque. Et qu'est-ce que vous pouvez encore dire, ma sœur, concernant la première époque?
Dans la première époque, dont nous pouvons constater depuis le livre de Genèse, que Dieu était déjà en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Donc quand nous voyons toute la période de l'Ancien Testament, nous allons voir même dans les livres prophétiques, nous allons voir que Dieu, par ses prophètes, annonçait déjà que Jésus-Christ allait arriver.
Par exemple, quel prophète?
Par exemple, nous allons le prophète Esaïe, ou encore par David encore. Hein. Dans les livres de rois, Dieu nous annonçait aussi que Jésus-Christ allait.
Hein?
Oui, c'est Moïse, dit je suis
Moïse.
C'était qui? C'était
un
Moïse.
Prophète. Oui, Moïse.
Et c'était quoi exactement? Pourriez-vous nous parler de ça?
Ouais, Dieu lui dit que un prophète comme vous.
Est-ce que vous pouvez nous donner les passages de la Bible qui indiquent ce que Moïse avait dit concernant Jésus-Christ dans cette prophétie-là? C'était dans quel livre?
Oui, je vais lire.
Dans quel livre exactement? Quel chapitre et quel verset?
Je regarde dans mes notes.
Allez-y.
Oui.
Donc vous n'avez pas pu revoir vos notes.
Oui, on a regardé, oui. Esaïe.
Non, je parle de Moïse.
Non, je sais pas.
Hein? Alors, vous pouvez lire Deutéronome chapitre 18 à partir de verset 15.
Ah, voilà.
Est-ce que vous l'avez dans vos notes ou pas?
Si, si, oui.
Alléluia.
Mais comment est-ce que vous ne les trouvez pas?
Moi, je vais lire au nom de Jésus.
Ok, allez, lisez, ma soeur. Oui.
Ma soeur, la Bible déclare. Moi.
Allez-y.
Deutéronome 18, chapitre 15. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15.
Oui, allez-y.
L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères.
Oui, écoutez, un prophète. À partir de verset combien?
À partir du verset 18.
Oui, allez-y.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte.
Voilà. Vous pouvez arrêter là.
Oui.
On est tous d'accord que c'était le texte que j'attendais de vous.
Oui, c'est ça. Oui.
Oui. Donc ici, déjà, à l'époque de Moïse, le Seigneur avait inspiré à Moïse cette parole pour dire qu'il va envoyer un prophète du milieu de tes frères. Un prophète comme Moïse. Alors, écoutez, le Seigneur dit au verset, nous allons voir, non, c'est déjà à partir de 18, et le verset 19, je lis, la Bible dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. » Donc, si quelqu'un n'écoute pas la parole que Dieu a envoyée par son Fils, Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est Dieu qui lui demandera compte. Donc, plusieurs années avant, dans l'Ancien Testament, on annonçait la naissance de Jésus-Christ. Je vous ai dit la fois passée que l'Ancien Testament, c'était la préparation de la venue de Jésus-Christ. On l'appelle Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. C'est ça la première époque. Parce qu'ici, on parle des cinq époques chronologiques de la Bible. Alors, nous avons vu la première époque qui est l'Ancien Testament ou
la préparation de la venue de Jésus.
Voilà. Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, l'Ancien Testament contient combien de livres au total?
39.
Combien?
39.
39.
Oui.
Alors, j'aimerais que vous puissiez les lire un à un. Selon l'ordre établi.
Donc, allez-y. Nous allons lire.
Oui.
Le livre Genèse, Exode,
Lévitique,
Nombre,
Deutéronome,
Josué,
Juge,
Ruth,
1 Samuel, livre de Samuel,
2 Samuel, deuxième
livre de Samuel,
1 Roi,
premier livre de Roi,
2 Rois,
deuxième livre de Roi,
un
premier livre de Chroniques,
deux Chroniques,
deuxième livre de Chroniques,
Esdras,
Néhémie, Esther, Job,
Somme,
Proverbes,
Ecclésiaste,
Cantique des Cantiques, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie.
Ça fait combien au total?
39.
Ok, je vais demander à ma soeur qui est juste à côté ici de lire, de relire à partir du premier livre. Comme ça, vous comptez. Donc, commencez par le premier livre. Comme ça, vous comptez. Et ça nous permet de savoir l'Ancien Testament est composé de combien de livres. Donc, vous commencez à lire 1, Genèse, 2, Exode, ainsi de suite. Allez-y.
Donc, le livre de l'Ancien Testament contient 1, le livre de Genèse, 2, Exode, 3, Lévitique, 4, Nombre, 5, Deutéronome, 6, Josué, 7, Juge, 8, Ruth, 9, 1 Samuel, 10, 2 Samuel, 11, 1 Roi, 12, 2 Rois, 13, 1 Chronique, 14, 2 Chroniques, 15, Esdras, 16, Néhémie, 17, Esther, 18, Job, 19, Psaume, 20, Proverbes, 21, Ecclésiaste, 22, Cantique des Cantiques. Ensuite, 23, Esaïe, 24, Jérémie. Mm. 25, Lamentation de Jérémie. 26, Ézéchiel. 27, Daniel. Mm. 28, Osée. 29, Joël. 30, Amos. Mm.
30, Amos.
30, Amos. 31, Abdias. 32, Jonas. 33, Michée. 34, Naoum. 35, Habakkuk. 36, Sophonie. 37, Agé. 38, Zacharie. 39, Malachi.
Ok. Ça fait combien en total?
39.
39.
Ok. 39 livres qui composent la première époque qu'on a appelée. C'est quoi la première époque? Oui?
La préparation de la venue de Jésus.
Ok. Alors, maintenant, quel est le sixième livre de la Bible?
Le sixième livre de la Bible est Josué.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est Josué, le sixième Bible, livre de la Bible? Et le 38e livre, c'est quoi?
Le 38e, c'est Zacharie.
37e.
37e, c'est Agé.
Ok. Le 39e, c'est quoi?
Malachi.
Ok. Donc, voilà, ça, les 39 livres constituent la première époque qui est l'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. Je vous ai donné un devoir. Alors, dites-moi, quand est-ce que Dieu a créé les légumes?
C'était le troisième jour. Donc, Genèse 1, 9 à 13.
Oui, c'était le troisième jour. Vous le trouvez où? Dans Genèse
1, 9 à 13.
Genèse 1, 9 à 13. Est-ce que vous êtes sûr? Il ne faut pas accepter n'importe comment. Il faut vérifier dans la parole.
Mm. Oui, hein, c'est ça.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous lire Genèse 1, 9 à 13? Qui peut lire Genèse 1, 9 à 13?
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux de leur semence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, ainsi, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour.
Ok, donc nous sommes d'accord que les légumes a été créé le troisième jour.
Le troisième jour.
Ok, encore une question. Encore une question. Quand est-ce que Dieu a séparé les eaux d'avec la terre? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il a séparé les eaux avec les continents? C'était quand?
C'était la deuxième jour.
Est-ce que vous êtes sûr? Quand est-ce que Dieu a séparé les eaux d'avec la terre? Quand il a rassemblé,
c'était la deuxième jour.
Vous pouvez répéter la question?
J'ai dit ceci. Avant de répondre, il faut bien vérifier d'abord dans votre Bible avant de répondre. Quand est-ce que Dieu a séparé les eaux d'avec la terre? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il a séparé les eaux d'avec les continents?
Le troisième jour aussi. Oui.
Alors, les autres disent c'est le deuxième jour, les autres disent
c'est le troisième.
C'est le troisième jour.
Prouvez-moi que c'est le deuxième ou le troisième jour.
Le troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela a été bon. Dieu dit que la terre et voilà produise voilà
c'est ça. Et les deuxièmes qui ont dit le deuxième jour?
Non, moi je dis le troisième.
Troisième jour.
Mais le deuxième jour, après, vous avez parlé du deuxième jour.
Non,
c'est
non.
Quoi? Hein?
Mais le deuxième jour, Dieu.
Non, allez-y, lisez le verset 6. Pour ceux qui ont dit le deuxième jour, lisez le verset 6 alors. On va vérifier, hein.
Oui.
La Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour.
Donc le deuxième jour, Dieu n'a pas séparé les eaux d'avec la terre. Non.
Voilà.
Mais la Bible dit qu'il a séparé les eaux d'avec quoi? Les eaux. Donc voilà. C'était la séparation des eaux d'avec les eaux. Mais la Bible précise qu'il a séparé les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il a appelé l'étendue ciel. J'aimerais que l'on puisse bien comprendre. La Bible dit, Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, il y avait ce que Dieu a appelé l'étendue. L'étendue, c'est le ciel. Je vous ai parlé de ça la fois passée. Le ciel, là où vous voyez, nous voyons les étoiles. Amen.
Amen.
Amen. Donc, le ciel, là où nous voyons les étoiles.
Amen.
Donc, il y a les eaux qui sont cachées au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Donc, comme nous sommes là, il y a encore les eaux là, au-dessus du ciel. Alléluia, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est écrit dans la parole. Il y a les eaux au-dessus du ciel ou l'étendue, mais il y a encore les eaux en dessous. Donc ce que nous avons aussi, océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, mer Rouge, je ne sais pas moi, mer Méditerranée, ce sont les eaux qui sont restées ici en dessous. Amen, hein? Mais
amen.
Il y a encore les autres eaux, je ne sais pas si on peut les appeler aussi océans parce que nous ne connaissons pas encore leur nom. Peut-être il y a quelqu'un qui connaît les noms, mais moi je ne connais pas. Mais la Bible dit que ces eaux-là sont restées, ces eaux-là sont au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Amen. Alors je me pose la question, quand Dieu avait ouvert les vents du ciel pour qu'il puisse pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Moi, je me suis dit toujours, peut-être Dieu s'est servi de ces eaux-là qui sont restées au-dessus de l'étendue. C'est ce qui a fait qu'il a pu pleuvoir 40 jours et 40 jours à l'époque de Noé.
Mm-hmm.
Parce que imaginez-vous, d'où sont venues ces eaux-là pendant 40 jours et 40 nuits pour détruire le monde.
Cool.
Amen, hein?
Amen.
Donc dans la Bible, il faut faire des recherches. Maintenant, le troisième jour, Dieu a maintenant séparé les eaux qui sont ici, en dessous de l'étendue, donc ici en bas, d'avec la terre, donc avec les continents. Amen, hein? Et
Amen.
C'est ce jour-là que l'Amérique, le continent américain a vu le jour. C'est ce jour-là que le beau continent, l'Afrique, a vu le jour. L'Europe, l'Asie, l'Océanie. Amen, c'est clair?
Amen.
On peut continuer. Oui? Pardon?
Troisième jour.
Oui, ça c'est le troisième jour maintenant que Dieu a séparé les eaux avec la terre.
Oui.
Alors, encore une question avant de continuer sur la deuxième époque chronologique de la Bible. Quand est-ce que Dieu a créé la vache? Ah, voilà, je vous ai dit, ça c'est une bonne question. Vous mangez la viande, mais quand est-ce que Dieu a créé la vache?
Le cinquième jour.
Amen.
Oui, c'est le cinquième jour.
Cela est repris dans Genèse chapitre 1, verset 20.
Genèse 1, 20.
Je vais lire au nom de Jésus. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. » Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Ce n'est pas ça.
C'est le sixième alors.
Alors, je continue au nom de Jésus. Nous
non,
sommes
non,
toujours
attendez.
Chapitre 1.
Qui a dit que c'était le sixième jour?
C'est notre sœur.
Juste avant la création de l'homme.
Donc moi je vais lire au verset 24, toujours dans Genèse 1. Nous allons lire, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Amen. C'était toujours le cinquième jour, hein? C'était toujours le cinquième jour. Donc la sœur Nadège a raison. Les poissons étaient créés le cinquième jour. Le bétail aussi. Amen.
Non, je ne suis pas d'accord.
Il faut bien lire. Hein?
Je ne suis pas d'accord.
Il faut bien lire.
C'est le cinquième jour.
Non, c'était le sixième jour, juste avant de créer l'homme. C'était le sixième jour.
Il faut bien lire.
D'accord. C'est le sixième.
Écoutez.
C'est le sixième jour, pasteur Moïse.
Parce que ici,
sixième jour.
Écoutez, ici, nous sommes déjà au sixième jour.
Oui.
Parce que le cinquième jour s'arrête au verset 23.
Amen.
Oui.
Le verset 24, c'est déjà ce que Dieu a commencé à faire le sixième jour. Parce que le sixième jour, Dieu n'a pas créé que l'homme, hein? Il a commencé à faire autre chose. Alors je vous pose tout de suite la question. Quand est-ce que Dieu a créé les chats?
Ben, le sixième jour. Ben oui, un peu.
Quand est-ce que Dieu a créé les chats et les chiens?
Ben oui, les animaux terrestres.
Le sixième jour.
Le sixième jour.
Juste avant de créer l'homme.
Oui,
les
reptiles,
Amen.
Le bétail. Et après,
je vais.
Je donne à ma soeur ici de lire. Lisez.
Je vais lire au nom de
Jésus. C'est la version français courant là.
C'est
Genèse 1 à partir
courant,
de quel verset là?
Chapitre 1. Donc Genèse chapitre 1, verset 24. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces des bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante.
On peut arrêter là. Lisez juste le verset 24 maintenant.
Donc juste le verset 24, je reprends. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques.
Animaux domestiques.
Petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce.
Voilà.
Et cela se réalisa.
Donc voilà, c'est à partir de là, dans le sixième jour, que Dieu a commencé à créer, il a créé les animaux domestiques. Donc, je veux dire, le chat a été créé quand?
Le sixième jour.
Le chien.
Le sixième jour.
Et monsieur le lion.
Le lion.
Le sixième jour. Le sixième jour.
Ok. Donc, je vais encore vous demander de bien méditer Genèse chapitre 1. Ça va vous aider à savoir tel animal, tel oiseau a été créé tel jour. Maintenant, le coq a été créé quand?
Le sixième jour.
Le coq.
Le cinquième jour. Tous les animaux ailés, oui. Le cinquième jour. Non, les animaux avec des ailes. Les coqs, ils ont des ailes.
Hein. Oui, c'est vrai.
Écoutez, lisez bien. Commencez à partir du verset 20.
Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.
Alors, quand la Bible dit « Il créa tout oiseau ailé selon leur espèce », qu'est-ce que vous entendez par là?
Les coqs, les poules, le reste. Mais tous les oiseaux ailés,
hein?
Tous les oiseaux qui ont des ailes. Toutes les bêtes qui ont des ailes.
Les hirondelles,
les hiboux.
C'est pas obligé qu'ils volent. Les animaux avec des ailes.
Donc voilà, c'est ça. Alors nous allons maintenant continuer. N'oubliez pas que je vais vous demander de me donner votre devoir. Donc je vous accorde encore la grâce de le présenter la séance prochaine. Donc vous avez encore le temps de travailler sur les devoirs que je vous ai donnés. Mais aujourd'hui, permettez-moi de poursuivre. Donc voilà, nous venons de voir la première époque qui est l'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. C'est une époque qui contient combien de livres?
39 livres.
D'accord, 39 livres. Alors maintenant, nous allons poursuivre, nous allons à la deuxième époque. Donc vous notez, la deuxième époque chronologique de la Bible. Ok, la deuxième époque chronologique de la Bible.
C'est le Nouveau Testament.
Qui peut nous dire quelle est la deuxième époque chronologique de la Bible? Normalement, nous devons voir combien d'époques?
Trois époques. Trois.
Combien?
Trois.
Papa.
Deux. Il y en a trois. La troisième époque, elle n'est pas encore réalisée, mais ouais. Dieu nous l'a donnée quand même.
Mais écoutez, le titre même de cet enseignement, essayez un peu de voir le titre de cet enseignement, c'était quoi?
Deuxième époque chronologique de la Bible.
Non, non, le titre principal.
Les cinq époques chronologiques.
Les cinq époques
chronologiques de la Bible.
Les cinq époques chronologiques de la Bible.
Mais alors,
ah, il y en a cinq alors.
Il y en a cinq. Cinq. Les cinq époques chronologiques de la Bible.
Comment est-ce que vous me dites qu'il y en a trois?
Non, c'est cinq. On a travaillé, Pasteur Moïse. Hein. Peut-être que ça ne voilà, se voit pas, mais on a travaillé.
Il faut toujours revoir vos notes. Hein.
Si, on l'a fait tout l'après-midi, on l'a fait depuis lundi.
Mais écoutez, vous avez une semaine pour ça. Nous allons voir cinq époques. Maintenant, nous entamons la deuxième époque. Nous allons noter. La deuxième époque chronologique de la Bible, on l'appelle la manifestation ou les quatre évangiles. C'est ça la deuxième époque. J'ai entendu quelqu'un dire ici, c'est le Nouveau Testament. Vous avez parlé du Nouveau Testament en général.
Moi, je me suis rattrapé, j'ai dit les évangiles.
Alors, la non, deuxième...
Je peux confirmer. Hein.
La deuxième époque, c'est la manifestation ou les quatre évangiles. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la manifestation? Pourquoi on appelle ça la manifestation?
Parce que c'est là que Jésus-Christ arrive, il y a la naissance du Christ.
Qui encore peut nous dire pourquoi?
Non, c'est la manifestation des prophéties. Dans l'Ancien Testament.
La manifestation du Saint-Esprit.
C'est la
manifestation.
Oui, non. Allez-y. Oui.
C'est l'accomplissement.
C'est l'accomplissement des prophéties. C'est
l'accomplissement.
Des prophéties de l'Éternel, donc la naissance du Christ.
C'est l'accomplissement de...
La présence de Jésus-Christ.
La manifestation dont on nous parle ici, c'est vraiment l'accomplissement de la prophétie ou l'accomplissement de la préparation de la venue de Jésus. Parce que tout l'Ancien Testament, on était en train de préparer cette venue. Je vous ai parlé l'autre fois des combats de David et Goliath.
Oui.
Si le Seigneur nous a fait part de toutes ces histoires-là, c'était pour nous préparer au combat spirituel aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est aligné deux frères. Alors, demander à ces deux frères de se battre jusqu'à la mort. Non, ça c'est charnel. Le combat que nous avions vu avec David et Goliath et toutes les guerres de l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous le menons spirituellement. C'est le combat spirituel aujourd'hui. Donc Dieu était en train de nous préparer. Et comme nous l'avons bien dit, que l'homme et la femme avaient péché. Maintenant, l'objectif de Dieu était de sauver l'homme, était de purifier l'homme, était de justifier l'homme. Mais pour le purifier, pour le justifier, il fallait une préparation. Et voilà, il a utilisé tous ses serviteurs, ses prophètes. Ils sont passés l'un après l'autre. C'était pour préparer la manifestation. Donc ici, Jésus-Christ est né. Jésus est né. Le Messie est né. Donc, Jésus-Christ, le Sauveur, est né. Nous avons vu que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, avait prophétisé bien avant sur la naissance de Jésus-Christ, sur l'arrivée de Jésus, dans Ésaïe chapitre 9. Et voilà maintenant la prophétie s'accomplit. C'est la réalisation ici. C'est la manifestation de Jésus lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, il se manifeste. C'est lui-même qui se manifeste. Il commence à parler. Il commence à enseigner. Il commence à opérer des miracles, la délivrance. C'est ça la manifestation. Donc, pendant cette époque, Jésus se manifeste lui-même. Nous allons lire, par exemple, Jean 14, verset 9. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Allez-y, qui a trouvé?
Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 9. La parole de Dieu déclare, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que
non, on peut arrêter là. Le verset 9. Donc voilà ici, Jésus se manifeste maintenant. Jésus se manifeste. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, ils étaient déjà avec Jésus. Jésus s'est manifesté. Il était déjà là. Maintenant, on lui demande de leur montrer le Père. Or, il ne savait pas que celui qui voit déjà Jésus, il voit le Père. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il n'était même pas important de poser encore cette question-là, parce qu'il était déjà là. Et à travers lui, il y avait déjà son Père. Nous allons lire encore Jean 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Qui a trouvé? Jean 10, 30. Alors, que la personne qui trouve...
Au nom de Jésus.
Ok, lisez.
Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un.
Voilà Jésus qui dit maintenant, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il y avait unité entre Jésus-Christ et Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est déjà au chapitre 10. Amen. C'est déjà au chapitre 10. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais au chapitre 14, Philippe, il pose la même question. Montre-nous le Père. Mais je vous ai déjà dit au chapitre 10. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà maintenant au chapitre 14. Pour ne plus répéter ce qu'il avait déjà dit au chapitre 10, au chapitre 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc ça, c'est maintenant une confirmation, c'est la manifestation même. Jésus se manifeste maintenant. Vous pouvez le toucher physiquement, vous pouvez dormir avec lui, vous pouvez manger avec lui. Et la Bible nous dit, parmi ses disciples, il y avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Jésus avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Il s'appelait Jean. Le disciple Jean, l'apôtre Jean, il dormait sur la poitrine de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus aimait beaucoup Jean et Jean dormait sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire, il écoutait même les battements du cœur de Jésus. Et moi, je dis, c'est la raison pour laquelle Jean a eu une grande révélation qui est l'Apocalypse. Parce que lui, il écoutait déjà les battements du cœur de Jésus. Il savait comment est-ce que le cœur de Jésus battait. Donc, en d'autres termes, il connaissait les secrets du battement du cœur de Jésus. Et Jésus lui a donné la révélation d'Apocalypse. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Et Jésus sur la croix, avant de mourir, il dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Parce qu'il aimait beaucoup Jésus, il aimait beaucoup Jean. La manifestation, il se manifeste maintenant. Et vous savez, même Jean-Baptiste était né, il était venu pour préparer le chemin de Jésus, éclairer. Donc avant même la naissance de Jésus, à cette époque-là, Jean est né. Il a commencé à parler, il a commencé à prêcher. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Il a commencé à parler, à crier. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et Jean a commencé à baptiser les gens. Et voilà que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ se dirigea vers Jean, là où Jean était en train de baptiser. Mais Jean avait déjà la révélation que la manifestation était déjà là. Lui-même, il est déjà venu, il est déjà né, il est déjà dans le monde. Et vous savez, les mages avaient eu la révélation, les mages. La Bible dit, si vous suivez bien, si vous regardez bien la définition des mages, dans la version française courante, on les appelle les savants spécialistes des étoiles. On les appelle dans la version français courant les savants spécialistes des étoiles. Ici, je parle de la deuxième époque, la manifestation. Jésus est né, il se manifeste lui-même. Les mages même ont reçu cette révélation que le Fils devait naître. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset. Mais je préfère qu'on lise la version français courant. Matthieu 2 à partir du premier verset. Allez-y.
Marcel. Nous allons lire au nom de Jésus. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles.
Je prenais des savants.
Des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem.
Ok, c'est bon, vous pouvez arrêter. La Bible dit, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Lui et tout Jérusalem avec lui. Ils étaient troublés. Le roi Hérode était troublé parce qu'il venait d'apprendre qu'un roi venait de naître. Alors, pourquoi est-ce qu'il était troublé? Lui, il est roi. Il dirige le pays,
Et il apprend qu'un autre roi vient de naître, donc c'est lui qui va lui monter un coup d'état ou quoi. Il était troublé. Il dit, mais mon roi, ma royauté là, est-ce que ça va encore durer ou pas? Hérode. Alors il a commencé à tout faire pour éliminer Jésus. Alléluia. La manifestation a troublé Hérode. Écoutez, quand Jésus se manifeste dans votre vie, quand vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il commence à se manifester par ses œuvres, par la guérison, par les miracles, par les prodiges. Le monde des ténèbres commence à bouger. La Bible dit Hérode était troublé. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, Jésus se manifeste. Ça, c'est la deuxième époque. Il se manifeste. Et quand il est né, la Bible dit, Hérode était troublé. Parce que Jésus-Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie sera troublée. Quand Jésus se manifeste en toi, alléluia, même si on t'avait condamné, la condamnation va être troublée. Même si les démons t'environnaient, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont être troublés parce que Jésus va se manifester. Il est le Tout-Puissant. La Bible déclare qu'il est le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, il est le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Quand il se manifeste dans la vie d'une personne, bien-aimé, quelles que soient les chaînes se brisent, les chaînes se rompent. Quand il se manifeste dans la vie d'une personne qui était pauvre, bien-aimé, la richesse se manifeste dans votre vie. Même si vous étiez, bien-aimé, même si vous aviez un cas désespéré, les gens n'attendaient que votre mort. Quand vous acceptez Jésus et que vous cherchez la vie de sanctification, vous commencez à mener la vie de sanctification, Jésus se manifeste. Maintenant, les gens qui attendaient votre mort, ils vont voir comment est-ce que vous allez vivre avec Jésus-Christ de Nazareth. La manifestation. Jésus se manifeste. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. La manifestation. Oh Lord. 1 Jean 5, vous avez dit. Lisez s'il vous plaît. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20.
1 Jean 5, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Nous avons aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable.
Mmh.
Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle.
C'est Amen. Lui le Dieu véritable et la vie éternel. Jésus-Christ est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit c'est lui le Dieu véritable. Ce n'est pas un Dieu à minuscule comme des petits dieux. Non, c'est un vrai Dieu. Parce qu'il dit dans Jean 10, 10, moi et le Père, nous sommes un. Il dit dans Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans 1 Jean 5, verset 20, il dit, la Bible dit, il est le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui reçoit Jésus dans sa vie. Il a déjà la vie éternelle. Amen. La manifestation. La vie éternelle se manifeste. Écoutez, il distribue gratuitement la vie éternelle, mais à une seule condition, que vous puissiez croire en sa parole, que vous puissiez croire qu'il est le Seigneur des Seigneurs et qu'il est le Roi des Rois. Il vous communique la vie éternelle, il vous donne la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver, nous libérer, nous guérir. Jésus de Nazareth, il se manifeste dans la vie de quiconque croit. Et la Bible dit, quiconque croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quiconque ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, si vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Parce que 1 Jean 5 dit, il est le Dieu véritable. Écoutez, je vous invite à croire en Jésus. Acceptez-le dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est lui la vie éternelle. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il se manifeste maintenant. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ceux qui l'ont précédé, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là dans l'église, dans les synagogues, avec les gens qui étaient paralysés, avec les boiteux, avec les aveugles, avec les sourds. Mais ces sourds demeuraient là avec leurs problèmes, ces aveugles demeuraient là avec leurs problèmes, ces malades demeuraient là avec leurs problèmes. Mais lorsque la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth, s'est manifestée, quand il a commencé à prêcher dans des synagogues, quand il a commencé à prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités, les sourds pouvaient encore entendre, les muets pouvaient encore parler, les aveugles ont commencé à recouvrir la vie. Oh, il faisait des miracles, il faisait de grandes choses, il a ressuscité Lazare, il a ouvert les yeux de Bartimée, il a guéri les infirmes, il a guéri tous ceux qui étaient malades. Et il n'y avait aucune situation qui pouvait résister devant Jésus. La manifestation, la vie éternelle, le lion de la tribu de Juda, le pain de vie, la manne cachée, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus se manifeste. Bien-aimé, je te lance un message de l'accepter dans ta vie. Il est le Dieu véritable. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te guérir, quelle que soit ta maladie. Jésus, quand il accepte et que tu crois qu'il est le Dieu qui peut te guérir, il te touche, il communique la vie, même aux cellules de ton corps qui étaient déjà mortes, même aux parties de ton corps qui étaient déjà mortes, qui étaient malades. Jésus, quand il communique la vie, alléluia, tout change dans ta vie. Jésus, la deuxième époque, la manifestation ou les quatre évangiles. Alors, il s'est manifesté au travers de ces quatre évangiles. Mais quels sont ces quatre évangiles?
Les quatre évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Oui, amen. C'est
Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Les quatre évangiles, donc, nous avons cité, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on écrit l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Pourquoi selon, beaucoup de selon?
Je pense parce que on peut nous raconter une histoire maintenant. Chacun va développer de sa façon. Donc, comme Matthieu, lui aussi a parlé de sa façon. Et Marc aussi, Luc aussi et Jean. Amen.
Oui, papa, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça?
Non.
Hein? Non?
Oui.
Vous voulez dire par rapport à ça,
non, non.
Pourquoi l'évangile c'est long, l'évangile c'est long, l'évangile c'est long, c'est long.
Moi je crois que, bon, parce qu'il y a plusieurs pierres sur les évangiles, donc c'est pour préciser pour les noms de celui qui a écrit l'évangile.
Vous savez, quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit c'est un esprit de diversité. Nous n'avons
pas tous les mêmes dons ou la même mission. Chacun a un don ou des dons particuliers que le Seigneur lui a confié selon la mission que le Seigneur lui a donnée. Lisons un peu Éphésiens chapitre 4 verset 7. Éphésiens 4, 7. Je ne suis pas encore à cette époque-là, mais on peut quand même lire Éphésiens 4, 7.
Éphésiens chapitre 4, verset 7, la Bible déclare: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
Répétez, s'il vous plaît, reprenez.
Je reprends au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc nous n'avons pas tous la même mesure. Nous avons des mesures de grâce différentes. Amen. La Bible dit à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Selon la mesure du don. Vous pouvez avoir tous les dons de guérison, mais ces dons de guérison ne se manifestent pas de la même façon. Frère Patrick peut avoir les dons de guérison. Quand il prie, la personne est guérie instantanément. Mais frère André peut aussi avoir les dons de guérison. Quand il prie, la guérison se manifeste 4 jours après. Mais c'est toujours le don de guérison. Mais la différence est par rapport à la mesure de grâce. Amen. Amen. Amen.
Amen.
La mesure. Donc, maintenant on nous parle l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Tous ses disciples étaient ensemble. Quand Jésus-Christ ouvrait les yeux des aveugles, ils étaient tous là. Quand Jésus-Christ était pendu au bois, ils étaient tous là. Quand Jésus-Christ avait multiplié les pains, ils étaient tous là. Quand on l'a mis sur la croix, ils étaient tous là. Mais chacun a sa façon de présenter Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Amen.
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 Donc, chacun a sa façon de présenter selon la mesure de grâce et selon la mission et le don que Dieu avait mis dans chacun d'eux. Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, quand Matthieu parle des tremblements de terre, ce n'est pas tout le monde qui parle des tremblements de terre lors de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui parle des tremblements de terre. Chacun a sa façon de présenter les choses selon la grâce et les dons, et aussi la mission. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Mais quand vous allez commencer à travailler pour Dieu, vous n'allez pas tous travailler de la même façon. Vous êtes en train de suivre ces cours ensemble. Mais quand Dieu va commencer à vous utiliser, vous n'allez pas tous travailler de la même façon. Vous n'allez pas tous prêcher de la même façon. Vous n'allez pas tous opérer les miracles de la même façon. Amen. Hein?
Amen.
La Bible nous parle de Pierre. Quand Pierre passait, la Bible dit les gens allaient chercher des malades. Ils allaient chercher les malades. Et ils venaient les placer sur des lits et des brancards pour que quand Pierre va passer, que son ombre au moins puisse toucher un malade. Donc, ils avaient la foi que l'ombre de Pierre pouvait guérir ces malades. Quelle puissance, quelle grâce, quel don. Seulement son ombre, bien-aimé dans le Seigneur. Seulement son ombre. Voilà pourquoi il y a d'autres serviteurs de Dieu. Quand ils prêchent, il suffit qu'ils passent seulement à côté de toi, tu tombes. C'est sa grâce, la grâce que Dieu lui a accordée, selon sa mission et les dons. Il y a d'autres, quand ils prêchent, et ils ne prêchent pas beaucoup, ils prêchent juste une petite exhortation, et après le miracle commence à s'opérer. Ça aussi c'est la grâce. Mais celui-là qui prêche seulement une petite exhortation, peut-être il n'est pas fort dans l'enseignement. Quand vous demandez à une telle personne d'enseigner, il ne sait pas par où commencer. Lui, tout ce qu'il sait, c'est l'exhortation et la prédication et le miracle s'opère. Mais demandez à cette personne, viens, tu vas enseigner, tu vas encadrer ces gens, enseigner-les. Il ne sait même pas par où commencer parce que sa grâce se limite à ce niveau-là. Mais il y a d'autres, quand ils commencent à enseigner, maintenant tu commences à dire, ah, donc cette chose-là c'est comme ça, ah, oh, mais je ne savais pas, ah, oh, je viens de découvrir. Donc, lui aussi, il a la grâce d'enseigner. Mais il y a aussi d'autres personnes, ils ont aussi reçu la grâce, que ce soit sur l'exhortation, ils peuvent exhorter, ils ont reçu la grâce de prêcher. Ils ont aussi reçu la grâce d'enseigner, même d'opérer le miracle. Donc c'est selon l'élection de la grâce. Alléluia. C'est selon la mesure du don de Christ. Est-ce que vous avez compris? Évangile selon, évangile selon, évangile selon, évangile selon. Vous avez compris? Hein?
Oui.
On peut évoluer?
Oui, amen.
Donc voilà, ça c'est la manifestation ou les quatre évangiles. Alors nous allons voir maintenant, quand Jésus s'est manifesté, après avoir reçu son baptême, parce que Jean hésitait, Jean ne voulait pas que Jésus soit baptisé par lui. Et Jésus qui dit à Jean, laisse faire la volonté de Dieu. Parce que Jean connaissait que par rapport à Jésus, lui il était plus petit. Il n'était même pas capable d'ouvrir même les lacets des chaussures de Jésus. Jean voulait s'humilier, mais Jésus qui se présente, écoutez, monsieur Jean, tu dois me baptiser. Il faut me baptiser. Je suis venu pour avoir mon baptême, donc baptise-moi. Laisse faire la volonté de Dieu. Et une fois baptisé, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et Jean a déjà baptisé les gens. Mais jamais le ciel s'est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, il a baptisé des gens, des hommes, des femmes. Mais aucun jour, le ciel était ouvert. Mais lors du baptême de Jésus, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous forme d'une colombe. Et la Bible dit, une voix se fit entendre dans le ciel. Ah, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est sur lui que j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'est ouvert lors de son baptême. Et la voix se fit entendre. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Alléluia. Sous forme d'une colombe. Écoutez, dans cette époque de la manifestation, Jésus nous a appris beaucoup de choses. Jésus est venu trouver les docteurs de la loi qui étaient là. Docteurs de la loi, c'est-à-dire, ce sont des gens qui enseignaient. Des professeurs. Je veux dire, les professeurs des pasteurs. Les professeurs des apôtres, les professeurs des... Écoutez, ce sont eux qui ont encadré, qui ont formé des serviteurs de Dieu. Il les a tous trouvés là. Ils étaient là, ces gens-là. Ce sont des gens qui ont étudié, bien-aimés, dans le Seigneur.
c'était pas des bourriques, c'était des gens qui ont étudié, des gens bien formés. Jésus les a trouvés là. Des docteurs de la loi tels que Nicodème. Hein? Des docteurs, Jésus les a trouvés tous là. Des gens bien formés. Mais quand Jésus est venu bien-aimé dans le Seigneur, ces gens étaient étonnés de ce que Jésus disait et de ce qu'il faisait. Maintenant, ils ne comprenaient plus rien. Parce que eux, ils avaient étudié, mais Jésus n'avait pas étudié. Eux qui avaient étudié, ils avaient avec eux les aveugles tous les jours. Ils avaient avec eux les malades tous les jours. Ils avaient avec eux les gens qui étaient courbés tous les jours. Ils avaient avec eux une église malade. Une église des gens fatigués de leurs problèmes. Une église étouffée, je vais dire. Mais ils étaient étudiés, des diplômés, je vais dire, des licenciés, des docteurs même. Parce que des gens tels que Nicodème, ils étaient des docteurs. Vous prenez des gens comme Gamaliel. Quand Gamaliel se met à parler, c'est tout le monde qui obéit. Gamaliel, Nicodème, docteur de la loi. Aujourd'hui, on peut dire docteur en théologie. Il a un doctorat. Mais quand Jésus s'est présenté, ils n'ont jamais vu Jésus-Christ sur les bancs de l'école théologique pour apprendre. Parce que pour eux, avant que Jésus commence à prêcher, il faut que Jésus soit d'abord élève, qu'il puisse avoir une licence en théologie, qu'il puisse avoir un doctorat en théologie. Mais ils n'ont jamais vu Jésus-Christ suivre le cours étant qu'étudiant. Maintenant, de quoi tu parles, toi? Ils étaient étonnés. Nous allons lire Jean chapitre 7, verset 15. Jean 7, 15.
Nous allons lire au nom de Jésus. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?»
Répétez encore, Jean 7, verset 15. Écoutez bien.
Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?»
Grave. La Bible dit, les Juifs s'étonnaient. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point
étudié?
Bien-aimé dans le Seigneur, pour être apôtre, il ne suffit pas que tu puisses étudier toujours. Vous pouvez étudier, c'est bien, mais les études ne constituent pas une condition sine qua non pour devenir pasteur.
Amen.
Les études ne constituent pas la condition sine qua non pour devenir évangéliste. Je ne sais pas moi, docteur. Écoutez, amen. L'Esprit de Dieu est là. Il révèle, il instruit, il restaure, il transforme.
Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen.
Les Juifs étaient étonnés. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Mais Jésus, écoutez, viens un peu ici, Jésus, viens un peu, viens un peu. Mais toi, nous t'avons vu, tu as ouvert les yeux de l'aveugle là. Tu viens d'ouvrir ses yeux. Mais montre-nous un peu ton diplôme. Tu es qui? Docteur en théologie? Écoutez, je ne suis pas contre les gens qui étudient, c'est bien. Il faut étudier pour savoir comment conduire le peuple de Dieu, comment conduire l'église de Dieu. Mais je dis que les études ne sont pas, ne constituent pas une condition sine qua non, la condition sans laquelle tu ne peux pas devenir serviteur. Non! Dieu appelle qui il veut, quand il veut, pour sa gloire. Ils étaient étonnés. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Quand vous regardez ce titre académique, zéro. Bagage intellectuel, zéro. Seulement, il était en train d'aider son père qui était charpentier. Alors, quel rapport y a-t-il entre le bois et la parole de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le fils du charpentier et le miracle? Quel rapport y a-t-il entre le fils du charpentier et le fait de ressusciter Lazare? Où la parole de Dieu, Jésus se manifeste maintenant. Il est venu confondre les sages. Il est venu confondre les intelligents. Il est venu confondre ceux qui ont étudié depuis longtemps. Les lions de la tribu de Juda. La manne cachée.
Amen.
Le pain de vie.
Amen.
L'agneau immolé.
Amen.
Le Seigneur de gloire.
Dieu.
Hey! Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il était dans quelle université? Il s'est posé la question. Mais lui, mais écoutez, dans toutes les écoles de cette ville, nous n'avons jamais vu cet homme sur le banc de l'école. Mais d'où vient-il? Et grave encore, il a même commencé à guérir les gens, même les jours de sabbat. Même les jours de sabbat, il a même commencé à violer les sabbats. Il commence même à guérir les jours de sabbat. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, mais comment est-ce que tu commences à ordonner aux gens de porter leur lit les jours de sabbat? Toi, tu vois le manque d'études. Tu vois maintenant, tu commences à violer même les sabbats. Parce que tu n'as pas été sur le banc de l'école. Jésus dit, je suis le maître du sabbat.
Amen.
Le lion de la tribu de Juda. La manifestation. Il se manifeste. Il commence Amen. À enseigner maintenant ce que les pharisiens n'ont jamais dit. Ce que, écoutez, ce que les sacrificateurs n'ont jamais enseigné. Et maintenant, écoutez, c'était toute une révolution. Parce que les gens étaient dans l'église, toujours malades, toujours pauvres, toujours humiliés, toujours dans leur situation. Maintenant, ils commencent à voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils commencent à entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu. Et maintenant, les gens commençaient à suivre Jésus. Il va à la montagne, ils sont avec lui. Il marche dans la rue, ils sont avec lui. Maintenant, on commence à constater que dans la synagogue, il y avait de plus en plus de gens en moins. Mais où sont partis tous ces gens qui remplissaient ces bancs? Ils ont essayé de se renseigner. Tous ces gens ont commencé à suivre Jésus. Ah, ça c'est une infraction. Il faut les tuer. On a commencé à comploter contre lui. Les lions de la tribu de Juda. Parce que tous les gens qui étaient tristes dans les églises, alléluia, tous les gens qui étaient tristes à l'époque, ils ont appris qu'il y a un sauveur. Ils ont appris qu'il y a un libérateur. Il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui change de situation. Et sortons, ne restons pas sur place. Suivons cet homme-là. Il a Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le sauveur. Oh Jésus! Bartimée a entendu parler de cet homme qui a bouleversé les gens de sa génération. Il dit, même si je ne vois pas, mais j'ai entendu parler de lui. Même si je ne peux pas le voir, j'ai entendu parler de lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, la foule les retenait. Mais moi, je crois que ces gens qui les retenaient, c'était des gens qui avaient les doutes. Hein? Écoutez, on est avec toi ici, Bartimée, depuis longtemps. Tu ne vois pas. Est-ce que tu ne peux pas rester tranquille? Bartimée dit, non, laisse-moi crier. Je suis avec vous ici il y a longtemps. Je suis mendiant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Je suis aveugle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux? J'ai seulement un seul manteau. C'est le seul manteau que j'ai. Est-ce que quelqu'un parmi vous m'a déjà acheté les vêtements? Laisse-moi. tu n'as rien fait pour moi, tu veux me retenir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié. Bartimée a dit, si je laisse passer cette occasion, c'est fini pour moi. Je dois profiter de l'occasion. Je dois crier. Même si les gens vont m'haïr, je ne suis pas là. Tout ce que je cherche la guérison. Je cherche mon miracle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La manifestation, bien-aimé. Jésus s'est manifesté et Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. On a appelé l'aveugle. Mendiant. Aveugle. Écoutez, il était mendiant. Sans domicile fixe. Bartimée. Il était non seulement aveugle, mais aussi sans domicile fixe. Mais personne ne s'occupait de lui. Jésus est venu pour sauver les gens qui souffrent. Jésus est venu s'occuper des gens qui sont abandonnés. Jésus est venu s'occuper des gens qui sont rejetés, qui sont oubliés par les membres de leur famille, qui sont même abandonnés par les membres de leur église. Jésus est à la recherche de ces gens. Il appelle Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a commencé à voir. Il n'a même pas imposé la main sur Bartimée. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas fait la délivrance. Sors-toi, esprit d'aveuglement, au nom de Jésus. Non, il n'a pas fait cela. Il a simplement parlé normal. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Bartimée a commencé à voir. Quel miracle! Quel miracle! Le miracle que les gens qui l'ont précédé n'ont pas pu opérer. Et voilà, toute la foule était derrière lui. Le Fils de Dieu est venu, le roi des rois. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tout le monde était derrière Jésus maintenant parce que Jésus s'est manifesté pour changer la situation. C'était une révolution, bien-aimée dans le Seigneur. Les gens qui étaient habitués à prier dans l'église, ils étaient toujours calmes. Même si on met la louange, les gens étaient calmes, croyant que si tu es plus timide et calme, que tu es saint. Or, tu es en train de mourir dans ta situation. Jésus a porté la révolution. Et maintenant, les serviteurs de Dieu de l'époque se sont levés contre lui. Alléluia! Jésus de Nazareth. Bien-aimé, chacun a sa grâce. Chacun a son don. N'étouffe pas le don que le Saint-Esprit t'a donné. N'étouffe pas la grâce qui est en toi. Ne prends pas en vain la grâce que Dieu t'a accordée. Jésus se manifeste. Alors ne te retiens pas. Laisse Jésus se manifester dans ta vie. Permets à Jésus de se manifester. Ne retiens pas le don qui est en toi. Tu as le don de l'exhortation. Exhorte. Tu as le don de gagner les âmes. Parle de Jésus aux gens. Amène les gens à l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu t'a donné les enseignements. Tu es resté avec soi. Tu restes et tu attends. Je ne sais pas moi quelle époque. Écoutez, si tes jours arrivent à sa fin, tu vas mourir. Tu partiras avec ces enseignements. Qu'est-ce que tu attends? Jésus se manifeste. Lève-toi et sers le Seigneur. Ne sois pas comme cet homme à qui Jésus avait remis un talent. Il est parti avec ce talent. Il l'a caché. Quel était son sort, bien-aimé? Il ne faut pas cacher les talents que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas cacher les dons que Dieu t'a donné. Il ne faut pas étouffer les dons spirituels. Annonce la parole de Dieu. Lève-toi. Même si les gens n'acceptent pas la parole de Dieu que tu apportes, un jour, Jésus va se manifester. Il va se glorifier et tu verras la gloire de Dieu. Même si les gens se moquent de toi. Bien-aimé, nous, quand on a commencé à parler de Jésus, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas de vêtements, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais des vêtements, comme on dit à lingala, silama inamakila. C'est-à-dire les vêtements sans eau
Alléluia. Le vêtement délavé, c'est-à-dire le vêtement qui était usé. C'est ce que je portais à l'époque. Maintenant, quelqu'un qui apparaît pauvre et qui apporte la parole de Dieu, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Parce que moi, je faisais les portes à porte à l'époque. J'allais d'une maison à l'autre, d'une parcelle à l'autre, pour annoncer la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'entrais dans une parcelle, je trouve un papa assis avec sa femme. Je dis, bien-aimé, bonjour. Est-ce que vous permettez que l'on puisse partager la parole de Dieu? S'ils étaient d'accord, ils me présentaient une chaise, je m'asseyais et je leur demandais de prier. Et après, je partageais la parole de Dieu avec eux. C'est ainsi que beaucoup sont venus au Seigneur. Je gagnais les âmes avec Jésus-Christ. Mais il y avait aussi d'autres qui me repoussaient. Il y avait d'autres qui me minimisaient, qui ne voulait pas accepter la parole que j'apportais. Mais je priais pour ces gens-là. Et beaucoup, Dieu les a touchés. Bien-aimé, je suis entré dans une parcelle où on vendait, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en lingala on appelle ça le lotoko. Dans cette parcelle-là, les gens ne vivaient que de ça. Le vin de palme, mais il y a encore plus que ça, parce qu'il y a d'autres...
Wow.
Pardon?
Du rhum.
On appelle ça comment?
Du rhum.
Comment? Vous dites, c'est quoi?
Du rhum.
Voilà, du rhum. Alors, les gens ne vivaient que de ça. Les rhum. Alors, les gens étaient ivres tous les jours dans cette parcelle parce qu'ils avaient mis des bancs et les gens du quartier venaient dans ce lieu-là pour prendre du rhum. Et chaque jour dans ce lieu, il y avait des gens ivres. Il se passait des choses terribles dans cette parcelle-là. Je suis entré. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné d'abord une sœur dans cette parcelle-là. Et je suis venu avec mon fils spirituel qui est aujourd'hui pasteur. Nous avons gagné une deuxième sœur, troisième sœur, quatrième sœur dans la même parcelle. Et les parents de ces gens, de ces enfants-là, eux, ils étaient à fond dans la cigarette, dans les rhums. Vraiment, il y avait des choses, des ténèbres qui se passaient dans cette parcelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés. Nous étions même menacés par l'oncle paternel de ses sœurs, parce que lui, il était militaire à l'époque. Pendant que j'étais debout en train de parler de Jésus-Christ à ces sœurs-là, l'oncle paternel militaire, il s'est présenté, il s'est dit, hey, « Hé petit, qu'est-ce que tu fais là ?» J'étais en train de prêcher bien-aimé dans le Seigneur. L'oncle, le militaire, il se présente, il m'appelle petit. « Petit, qu'est-ce que tu fais là ?» Arrête, hein? Si tu viens ici pour chercher des filles, attention, hein? Ce n'était pas dans mes intentions, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'apportais la parole de Dieu. Il a commencé à engueuler sur moi. J'ai arrêté la prédication et j'avais peur. Ah, Jésus. J'avais peur, j'ai arrêté la prédication. Il a commencé à parler, les militaires. Et maintenant, les sœurs commençaient à dire à leur oncle, « Oncle, tu ne vois pas que c'est un serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu peux faire ça ?» Et en plus, il prêche. Tu interromps même le message. Tu interromps la prédication. Et l'oncle n'était pas là. Il continuait à engueuler sur moi. Et quand il a fini, je lui ai dit merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, j'ai continué la prédication. Et voilà aujourd'hui où je vous parle. Toute cette famille-là, ils ont donné leur vie à Jésus. À commencer par leur père jusqu'au fils cadet. Ils ont accepté Jésus. Fini du rhum dans leur parcelle. Maintenant, tout le monde est devenu frère en Christ. Sœur en Christ. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé, même si on te minimise aujourd'hui, prêche la parole de Dieu. Même si on se moque de toi, prêche. Demain, tu verras les fruits de ce que Jésus-Christ fera. Parce qu'il se manifeste, bien-aimé, dans le Seigneur. La deuxième époque de la Bible, la manifestation pour les quatre évangiles. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il est le véritable et nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, nous allons continuer la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous propose d'arrêter ici, bien-aimés. Jésus de Nazareth, il est merveilleux. Que chacun de nous commence à le remercier pour ce qu'il vient de nous dire. Que chacun de nous commence à les remercier. Alléluia. Nous levons nos voix et nous remercions le Seigneur. Alléluia. Oh. Oh Lord. Oh Jésus. Alléluia. Oh merci Père. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus. Alléluia.
Merci pour ce Seigneur.
Oh Jésus.
Nous
disons tous merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur.
Alors maintenant tu vas prier, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vas prier, dis à Dieu, révèle-moi. Quel est ou quels sont les dons que tu as mis en moi? Quels sont les dons spirituels que tu as mis en moi? Quelle est ma mission? Parle-moi, Seigneur. Je veux que tu me parles et que tu puisses m'utiliser. Nous prions, alléluia. Oh Seigneur, je te demande, Père, de parler à mon frère. Parle à ma soeur. Révèle à mon frère et à ma soeur quelle est sa mission. Quel est le don spirituel que tu as mis en lui? Oh Seigneur, manifeste-toi Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci de réparer.
Merci Seigneur.
Alléluia. Nous disons tous merci Seigneur Jésus Christ.
Merci Seigneur.
Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, tu es bon. Nous t'élevons au-dessus de tout pour ce que tu viens de faire. Je te présente ton peuple. Alléluia. Bien-aimé, pendant ce moment, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'inviter de le recevoir. Tu vas prier après moi. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vas le recevoir maintenant. Même si tu l'avais déjà reçu, mais tu n'as pas marché dans la sanctification, renouvelle ton engagement. Alors tu peux dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois en ta parole. Je crois que tu es la vie éternelle. Tu es le Dieu véritable. Je viens à toi. Je te donne ma vie.
Alléluia.
Je t'accepte dans ma vie.
T'accepte dans ma vie.
Comme mon Seigneur.
Comme mon Seigneur.
Et mon Sauveur.
Et mon Sauveur.
Personnel.
Personnel.
Aie pitié de moi.
Aie pitié de moi.
Pardonne mes péchés.
Pardonne mes péchés.
Purifie-moi par ton sang.
Purifie-moi par ton sang.
Je suis pur.
Je suis pur.
Inscris mon nom.
Inscris mon nom.
Dans ton livre de vie. Je suis sauvé.
Je suis sauvé.
Oh Saint-Esprit.
Oh Saint-Esprit.
Viens dans ma vie.
Viens dans ma vie.
Utilise-moi.
Utilise-moi.
Et conduis ma vie.
Et conduis ma vie.
Pour la gloire de Dieu.
Pour la gloire de Dieu.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Je renonce. À toute œuvre du diable.
À toute œuvre du diable.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Je renonce au péché.
Je renonce au péché.
Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute maladie.
Je renonce à toute maladie.
Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus.
Je renonce à toute infirmité.
Je renonce à toute infirmité.
Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ.
Je renonce à Satan.
Je renonce à Satan.
Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ.
Je renonce aux démons.
Je renonce aux démons.
Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ.
Je suis sauvé.
Je suis sauvé.
Je suis sauvé.
Je suis sauvé.
Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ.
Protège-moi.
Protège-moi.
Par ton sang précieux.
Par ton sang précieux.
Accepte-moi.
Accepte-moi.
Dans ton royaume.
Dans ton royaume.
Le royaume des lumières.
Le royaume des lumières.
Tu es mon Seigneur.
Tu es mon Seigneur.
Et mon Sauveur.
Et mon Sauveur.
Personnel.
Personnel.
Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Je prie pour toi, Seigneur, protège mon frère, ma soeur, qui vient de t'accepter, dirige sa vie, dirige, oh mon Dieu, toute sa famille et règne dans sa vie. Nous t'élevons pour ce que tu viens de faire, au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Que ta parole soit esprit et vie dans la vie de mon frère et ma soeur qui les suit maintenant. Sois élevé au-dessus de tout, que tu crois ce que je diminue, apparaît que je disparaisse. Sans toi, je ne perds rien et je ne suis rien. Mais je veux que toute gloire soit pour toi, le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia.